Je sais pas vraiment si je vais te dire, mais là on est dans notre série où on parle de Jésus, on en apprend plus sur lui tous les jours. Et là du coup on va commencer avec son enfance. On commence par le début, on commence par le commencement comme on dit. Donc on va parler de la façon dont il a transformé l'eau en vin à Canaan. Donc il a guéri le fils d'un officier royal et ensuite ses premiers enseignements. Donc je pense qu'on y va, début à la fin. Comme c'est une histoire longue et qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai divisé en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, on va parler de son enfance et de sa jeunesse et de comment il a impacté et changé le monde dans sa jeunesse. Voilà, donc on y va et allez go ! Allez go tout le monde ! Vous savez que la petite enfance de Jésus, elle est à peine, mais à peine évoquée dans la Bible. Et les évangélistes, ils ne s'entendent pas tous sur les premières années. Donc les évangélistes, c'est les gens qui étudient la Bible, qui étudient souvent les évangiles. Et les évangéliques, c'est les personnes qui sont évangéliques, donc c'est leur église. Il faut faire la différence entre quand je vais dire évangéliste et évangélique. Bref. Mais lui, quand même, tu vois, il nous donne des informations. On est un peu aware, comment dire en anglais. Bref, non, je pense que je vais arrêter de parler anglais. Mais bref, en gros, lui qui nous explique comme quoi tout premier-né juif, en fait, il était soumis à une loi de Moïse. Donc, c'est qu'il devait être présenté au Seigneur, tout simplement. Donc, c'est à l'occasion de ce rite classique qu'un événement unique survient. Ok ? Donc, lorsque sous l'action du Saint-Esprit, un homme du nom de Siméon, il reconnaît le jeune enfant, le Messie annoncé par l'Ancien Testament, donc Jésus. Et là, la Bible dit, enfin, on cite quoi ? Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Donc ça c'est Luc 2, versets 21 à 32. Bref, les parents de Jésus, ils ne comprirent pas immédiatement cette annonce prophétique qui préfigure son destin dès les premiers temps de l'enfance de Jésus. Et après, j'ai vraiment pas trouvé beaucoup de détails. Et comme je vous ai dit, depuis que je suis petite, je fais de l'étude biblique depuis la primaire. On a vu les différentes étapes de la vie de Jésus, etc. Depuis qu'on est petit, vraiment, en se basant sur la Bible. Et j'ai jamais rien eu entre cet événement-là et ses 12 ans. Donc moi, je suppose qu'il n'y a rien. Parce que même moi, en lisant la Bible, j'ai pas réussi à trouver. Parce que, voilà. Bref. Seul l'épisode de la montée au temple vers l'âge de 12 ans narre un moment de l'enfance de Jésus, qui est fils de Dieu. Alors que Luc souligne que Jésus grandissait et était rempli de sagesse, la grâce de Dieu qui était sur lui se manifesta par un événement témoignant de son prochain rôle. Ok ? Son prochain rôle de Messie. Donc chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la Pâque. Normal. Alors que Jésus avait 12 ans, ils firent son pèlerinage suivant la coutume. Ok ? Mais à cette occasion, au moment du retour, les parents y perdent de vue leur enfant. Tu vois, genre, un peu comme quand il y a un enfant dans un supermarché. On est en mode, il est où ? Il a plein la caisse, il a plein la caisse. Du coup, bref, imagine tout le monde en train de le chercher. Vraiment, c'était très important. Et ce n'est qu'après 3 jours de recherche éperdu et gancé qu'il le retrouve au temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Donc, là, la Bible nous dit, tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et ses réponses. Donc, ça veut dire que là, franchement, là, Jésus, c'était vraiment le main character du moment. Genre, il est arrivé dans le temple, il parlait, tout le monde l'écoutait, tout le monde était subjugué, tout le monde était en mode « Waouh, qui est-il ?» et tout, d'où il sort tout ça, enfin, tu vois. Bref. Et du coup, à un âge où habituellement un enfant écoute sagement les paroles des docteurs de la loi, Jésus, il préfigure déjà la parole qu'il incarnera avec rayonnement plus tard à l'âge adulte. Donc, en gros, lui, il est déjà... Il est déjà en train de... Tu vois, hein ? Si t'as pas compris, bon, je sais pas reformuler, désolé. Mais ses parents, qui étaient angoissés, parce que, bah, on peut comprendre, ils ont perdu un peu leur enfant de vue pendant 3 jours, ils prêtent pas attention à ça, et ils demandent à l'enfant, ils demandent à Jésus, mais pourquoi tu nous as fait ça ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en le cherchant. Ils cherchaient leur enfant partout. Et là, Jésus, il leur répond quelque chose qui est incompréhensible pour eux. Et après, il dit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père, avec un grand P ? Et du coup, on a déjà ça qui nous montre en fait l'enfance de Jésus. Et on a déjà ça qui nous montre l'enfance de Jésus et ses premiers actes, en fait. À peine à 12 ans, il savait déjà que sa place, elle était près de Dieu. Vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous voyez le double sens du verset. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Donc en gros, là, Jésus il nous disait, il avait à peine 12 ans, il nous disait déjà que lui, il faut qu'il soit près de son Père. Il faut toujours qu'il soit auprès de Dieu. Que même si on cherche Jésus loin de Dieu, on ne trouvera pas, il sera toujours près de Dieu. Donc la Bible nous dit après dans Luc 2, verset 51. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Là, on aime, on aime, on aime, on aime. Et quand je vous disais que Jésus, il prophétisait, enfin, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais que Jésus, il parlait déjà de la parole qu'il allait incarner en tant qu'adulte. Là, on entre dans Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Jésus est déjà la parole de Dieu, mais il prophétise la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose dont on va parler, dans, je pense, dans un autre épisode, ou carrément dans une vidéo YouTube et tout, pour que vous puissiez vraiment vous poser et regarder ça. Mais bref, on va continuer sur l'histoire de Jésus. Donc, l'histoire, elle nous ramène au livre de Jean, mais Jean 2, pas Jean 1 comme je viens de lire, non, Jean 2. Et donc, du coup, il y avait un mariage à Cana. Un mariage, grosse fête, l'alcool, les enfants, les robes, les danses, la musique, bref. Faut savoir que les mariages, à cette époque-là, c'était un peu comme nos mariages. Vous voyez les mariages congolais? Les mariages un peu où ça bouge, où il y a la musique là, il y a les tontons qui sont que là pour boire, etc. Et c'est exactement la même chose. Ne pensez pas qu'il y a un trop grand écart. Et c'est là-bas que Jésus, hein, Jésus en tant que parole de Dieu, personnifiée en tant que parole de Dieu humaine, c'est là-bas qu'il a fait son premier miracle. Il a opéré au milieu de ce qui était un peu considéré comme des péchés, parce qu'on va pas se mentir, on sait qu'il y avait de l'alcool, et on sait comment les gens ils boivent dans les mariages, tu vois. On sait que les gens dans les mariages ils se lâchent, ils lâchent, ils lâchent, et surtout on sait, enfin on peut deviner qu'il y en a qui étaient dans l'ivresse à ce moment-là. Et pourtant c'est là-bas que Jésus a opéré son premier miracle, il a opéré son premier miracle au milieu des pécheurs. Bref, donc la Bible nous dit que Jésus il était là et tout. Marie elle vient le voir, elle lui dit bon, Jésus, on a besoin de ton aide. Il dit ouais maman et tout. Là, il dit, la sœur, elle dit, ouais, ils ont plus de vin. Tu peux pas faire un petit truc? Et là, il dit, ah non, 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 j'ai pas envie, je suis pas prêt, j'ai pas envie. Bref. Et là, du coup, Marie, elle avait déjà dit à tout le monde qu'elle allait s'en occuper, en fait. Et du coup, au final, il dit, bon, ok, laissez-moi seule, je vais faire ce qu'il faut. Et après, du coup, il dit au serviteur, remplissez ces deux récipients avec de l'eau, mettez l'eau jusqu'à bord, et après il dit, prenez cette eau et apportez-la au responsable du repas. Et après l'eau maintenant, elle a un goût de vin. On l'a laissée seule, cette eau-là, qui était de l'eau, il l'a transformée en vin. Et quand je sais pas si j'ai bien précisé, mais la personne qui voit en fait que c'est du vin, c'est le responsable du repas. En gros, c'est la personne, en gros, c'est le traiteur, tu vois. Et le traiteur, il va faire quoi? Il va te faire payer un tarif. Et il va mettre du vin archi cher, archi bon et tout au début. Et après, une fois que tout le monde a beaucoup bu, donc c'est ce dont il est question. Hein. Donc, ils ont beaucoup bu, ça veut dire qu'ils sont un peu dans l'ivresse, leurs sens sont altérés, on leur sert le moins bon vin. Et après, du coup, le marié, enfin je sais pas si c'est le marié ou le responsable du repas, franchement je suis un peu perdue, mais il y en a un des deux qui était en mode « Ah waouh, c'est vraiment beau, toi tu nous as gardé du bon vin du début à la fin. » Et Jean 2, verset 11 dit: c'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Ainsi, il va à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il y reste quelques jours. Donc tu vois, en fait, déjà, il a opéré dans une fête. Et même si on dit que les gens, ils avaient beaucoup bu, hein, comme les invités ont beaucoup bu, en fait, il a opéré même devant des gens en fait, qui n'étaient pas dans des dispositions dans lesquelles ils auraient pu voir la gloire de Dieu. Personne ne s'attend à voir la gloire de Dieu à un mariage où on boit, tu vois. Personne ne s'attend à ce que la gloire de Dieu elle se manifeste comme ça. Et pourtant, elle l'a fait. Pourtant, elle l'a fait. Continuons. Du coup, ensuite, nous sommes témoins de la guérison du fils d'un officier royal. Donc là, on est dans Jean 4, verset 54, il me semble. Je vérifie ça. Ouais, non, verset 46 jusqu'à 54. Donc, comme j'ai dit, on est témoin de la guérison d'un fils, du fils de quelqu'un d'important. Pardon. Là, je te lis verset PDV, hein, toujours. Jésus revient donc à Cana, en Galilée, où il a changé l'eau en vin. Tu vois, déjà, il revient sur les... Comment on dit ça? Quand quelqu'un revient sur les... Sur la truc du trim. Bref, tu m'as comprise. Hein? Il est revenu. Okay? Donc Jésus revient donc à Cana, en Galilée, où il a changé l'eau en vin. Il y a là un fonctionnaire important. Son fils est malade, à Capernaum. Tu vois, donc on a... Tu vois, c'est deux endroits qui ont été mentionnés juste avant. Tu vois. Le fonctionnaire entend dire que Jésus arrive de Judée en Galilée. Alors, il va le retrouver et il lui dit « Je t'en prie, viens à Capernaum pour guérir mon fils, il est mourant. » Jésus lui dit « Vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires? Sinon, vous ne croyez pas. » Ça, c'est extrêmement réel. Souvent, les gens, ils attendent de voir Jésus avec des lumières blanches ou en feu dans leur maison pour croire que c'est l'œuvre de Dieu. Et bref. Le fonctionnaire lui répond « Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit « Va chez toi. » Ton fils est bien vivant. L'homme croit à la parole de Jésus et il part. Il est encore sur le chemin quand ses serviteurs viennent à sa rencontre et lui disent « Ton enfant est bien vivant !» Le fonctionnaire leur demande « À quelle heure est-ce qu'il s'est trouvé mieux ?» Ils lui répondent « Hier, à 1h de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. » Le père s'aperçoit que c'est l'heure où Jésus lui a dit « Ton fils est bien vivant. » Alors le fonctionnaire croit en Jésus et toute sa famille aussi. Donc ça, c'est le deuxième signe étonnant que Jésus a fait. Donc, j'aime beaucoup ce verset aussi parce qu'il montre que les actes de Jésus, ils sont poussés par notre foi. En fait, Dieu agit dans notre vie, mais c'est notre manque de foi qui nous empêche de le voir. Et vraiment, en fait, j'ai l'impression que cet épisode, il dure 1000 ans et en même temps, j'ai l'impression qu'il est super court parce que ça fait déjà 12 minutes et j'ai toujours pas fini. Bref, on est dans Marc 1, verset 14. Un jour, Jean est mis en prison. Alors, Jésus va en Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu. Il dit, le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. Donc, ça montre que ces miracles, en fait, c'est que le début du ministère de Jésus. Parce que là, Jésus, il commence à proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux et à appeler les gens à se repentir et à croire en lui. Tu vois? Donc, c'est les premiers enseignements de Jésus, en fait. Quand il est dit que Jésus dit, le moment est décidé, un moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. Là, c'est les premiers enseignements de Jésus. On ne le voit pas comme ça, hein. Mais c'est les premiers enseignements de Jésus. En fait. C'est là que Jésus il va commencer à annoncer la bonne nouvelle des cieux et à appeler les gens à se repentir et à croire en lui. Donc, ces premiers miracles et ces enseignements, ils marquent le commencement d'un voyage extraordinaire qui changera à jamais le cours de l'histoire humaine, vu que jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'en parler comme des événements qui nous impactent. En tout cas, j'espère que tu auras bien compris cet épisode. J'essaie de parler avec une meilleure élocution, comme on en a fait le commentaire. J'essaie de m'améliorer tous les jours, mais je pense que c'est aussi un problème de micro. Pour être honnête, ici, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget. Et même si vous êtes des milliers à m'écouter, ben, on est des milliers, mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, je gagne rien. Enfin, à part si c'est moi, je n'ai pas compris comment gagner de l'argent, mais je ne gagne rien. Donc, je ne veux rien faire, vraiment. Mais voilà. En tout cas, je te fais plein de bisous. Et on se dit à très bientôt, à demain, pour notre prochain épisode sur la vie de Jésus. Bye!